Chapitre 21. Un portail ouvert.
Nous avons jugé judicieux,
dit Séonide,
de laisser l'une d'entre nous présenter le rapport complet. J'ai donc rassemblé les informations glanées par les autres.
Périne hocha distraitement la tête. Feil à ses côtés, il avait pris place sur des coussins sous le pavillon public, plein à craquer, comme d'habitude.
Le Kairien est toujours sans dessus-dessous, bien sûr,
commença Séonide. La sœur verte aux allures de négociante était une bête sec. Pas méchante, ni même désagréable, mais extrêmement sèche. Même avec ses champions. Qu'elle tarabustait comme un fermier prospère ses ouvriers agricoles.
Le trône du soleil est vide depuis trop longtemps. Tout le monde sait que le seigneur dragon l'a promis à Elaine Tracande, mais elle a dû lutter pour sécuriser sa propre couronne. Selon les rapports, elle aurait enfin réussi.
Son odeur révélant une sincère satisfaction, Séonide regarda Périne en quête d'un commentaire. Le jeune homme se gratta la barbe. Ce sujet était important, et il devait se concentrer. Mais le souvenir de sa formation dans le rêve des loups le hantait.
« Donc Elaine est bel et bien reine. Rand doit être content. »«
La réaction du seigneur dragon reste inconnue, »
dit Séonide, comme si elle énonçait le point suivant d'une liste. Les matriarches ne posèrent pas l'ombre d'une question. Assises sur des coussins, les unes à côté des autres, elles faisaient songer à des rivets sur une charnière. Très vraisemblablement, les promises leur avaient déjà raconté tout ça.
« Je suis à peu près sûr que le seigneur dragon est en Arad-Doman, »
continua Séonide.
« Plusieurs rumeurs pourraient le confirmer, mais d'autres le situent dans une multitude d'endroits. Cela dit, l'Arad-Doman, pour lui, est une conquête stratégique assez logique, car les troubles dans ce pays menace de déstabiliser les terres frontalières. Il y aurait envoyé les Aiel, mais je n'ai aucune certitude.
Il l'a fait,
dit simplement Edara, sans fournir d'autres explications.
Possible,
fit Séonide.
Beaucoup de rumeurs laissent penser qu'il prévoit de rencontrer les Séanchaniens en Arad-Doman. Je suppose qu'il aimerait être aidé par les tribus.
Périne repensa à Malden, puis il imagina une bataille rangée entre des Damanes et des Matriarches. Le pouvoir faisant des ravages dans les rangs de soldats, leur sang mêlé à la terre projetée en gerbe par les boules de feu. En gros, ça ressemblerait au puits de Doumaï, mais en pire. Périne frissonna. Grâce à ses visions, apparues alors que Séonide parlait, il sut que Rand était bien là où elle le disait. Séonide continua, évoquant des affaires de commerce et d'approvisionnement en nourriture. Périne, lui, repensa à l'étrange mur violet qu'il avait vu dans le rêve des loups.
« Imbécile !»
se tensa-t-il intérieurement.
« Écoute !»
Lumière. Il était vraiment un chef détestable. Quand les loups le laissaient chasser avec eux, il n'avait aucun problème à prendre la tête de la meute. Pourquoi en était-il incapable avec les êtres humains ?«
Théar lève des troupes !»
annonça Séonide.
« Toujours selon les rumeurs, le seigneur dragon a ordonné au roi Darlin d'enrôler des guerriers, car il semble y avoir un roi à Théar. Un curieux événement. » D'aucuns disent que Darlin marchera sur l'Arad-Doman, et d'autres avancent qu'il agit en prévision de l'ultime bataille. D'autres encore prétendent qu'Altor veut d'abord écraser les Séanchaniens. Les trois options se tiennent, et je ne peux pas trancher sans aller en personne à Théar.
Elle regarda Périne, pleine d'espoir.
« Non, »
répondit le mari de Feil.
« Pas encore. Rand n'est pas au Kairien, mais Andor semble stable. À mes yeux, le plus raisonnable est d'aller à Kaemlyn pour parler avec Elaine. » Elle nous communiquera des informations précieuses.
Dans l'odeur de Feil, Périne capta de l'inquiétude.
« Seigneur Aibara, »
dit Séonide,
« crois-tu que la reine t'accueillera à bras ouverts ? Avec l'étendard de Manéthéren et le titre dont tu t'es... »
Périne foudroya la sœur du regard.
« Les deux fichus étendards sont en cendres désormais. Quand je me serai expliqué devant elle, Elaine ne m'en voudra plus. »
« Et mes soldats ?»
demanda Aliandre.
Tu voudras sans doute son autorisation avant de faire entrer des guerriers étrangers en Andorre.
Tu ne viendras pas. Aliandre, je l'ai déjà dit, tu seras à Jeanna. Dès que nous en aurons terminé avec les capes blanches, on t'y conduira.
Avons-nous pris une décision au sujet des fils ?
Demanda Arganda, surexcité comme à son habitude.
Ils exigent une bataille,
dit Périne,
et refusent mon offre de pourparler. J'envisage de leur donner ce qu'ils veulent.
La conversation s'engagea sur ce sujet, puis dériva sur les conséquences de la présence d'un roi à Théar. Au bout d'un moment, Séonide se racla la gorge et reprit son rapport.
« Ô Kairien,
dit-elle,
Les Séanchaniens sont un grand sujet de débat. Les envahisseurs, eux, semblent se concentrer sur la défense des territoires conquis, l'Altara compris. Cela dit, ils se déploient toujours vers l'ouest, et on relève des escarmouches dans la plaine d'Almot.
Ils se dirigent vers l'Arad Doman, fit Arganda. Une bataille y est en Gésine.
Très probablement,
approuva Séonide.
Si l'ultime bataille éclate,
dit Anoura,
il sera avantageux d'avoir conclu une alliance avec les Séanchaniens.
Assise sur un coussin de soie bleue et jaune, elle semblait très pensive.
« Ils ont enchaîné des matriarches, »
dit Edara, son visage trop jeune se rembrunissant. Dans son odeur, le danger dominait. Furieuse mais froide, comme quand une personne planifiait un meurtre.
« Pas seulement des matriarches Shaido qui méritent leur sort. S'il y a une alliance avec les Séanchaniens, elle prendra fin à la minute où le Karakarn aura accompli sa mission. » Parmi mon peuple, on parle déjà beaucoup d'une querelle de sang avec ses envahisseurs.
Je doute que Rand veuille d'une guerre entre les Aiel et les Séanchaniens,
dit Perrine.
Un an et un jour,
rappela simplement Edara.
Les matriarches ne peuvent pas être prises comme Gaishine, mais les Séanchaniens ont sans doute des coutumes différentes. Quoi qu'il en soit, nous leur donnerons un an et un jour. S'ils ne relâchent pas leurs prisonnières après ce délai, ils tâteront de la pointe de nos lances. Le Karakarn ne peut pas nous demander plus de patience.
Un lourd silence s'abattit sur le pavillon.
Quoi qu'il en soit,
dit Séonide après un moment,
quand nous en aurons terminé, au Kairienne, nous retrouverons les éclaireuses parties en Andorre pour vérifier les rumeurs.
Minute,
dit Perrine.
Andorre?
Les matriarches ont décidé d'y envoyer des promises.
Ce n'était pas le plan,
grogna Perrine, regard rivé sur les Aiel.
Tu ne nous contrôles pas, Perrine Aibara,
dit Edara, très calme.
Nous devons savoir s'il y a encore des Aiel dans la capitale et si le Karakarn y est. Quand nous leur avons demandé d'ouvrir un portail, les Achamans ont accepté.
Ces promises auraient pu être repérées,
marmonna Perrine. De fait, il avait autorisé Grady à ouvrir des portails quand les Aiel lui en demandaient. Mais il pensait à des déplacements moins particulier. Bref, il aurait dû être plus précis.
Eh bien, elles ne se sont pas fait voir,
lâcha Séonide, agacée comme si elle parlait à un enfant lent à la comprenette.
Sauf par les gens à qui elle voulait parler.
Était-ce Perrine qui déraillait, ou cette Aes Sedai ressemblait-elle de plus en plus à une matriarche? C'était donc ça qu'elle et les autres faisaient dans le camp des Aiel? Apprendre à devenir encore plus têtue? Dans ce cas, que la lumière veille sur elle toute.
« Quoi qu'il en soit, »
continua Séonide,
« il était judicieux d'aller à Kemlin. Par nature, les rumeurs ne sont pas fiables. Surtout quand on raconte qu'un des rejetés agit dans l'ombre quelque part. »«
Un rejeté ?»
répéta Galen.
« En Andorre ?»
Perrine hocha la tête, puis fit signe qu'on lui serve de l'infusion.
« Selon Rand, c'était Ravine. Mais j'étais à deux rivières quand la bataille a eu lieu. »
Les couleurs tourbillonnèrent dans la tête de Perrine.
Il jouait le rôle d'un noble du cru, un certain Gabral ou Gabril. Il a manipulé la reine pour qu'elle tombe amoureuse de lui, puis il l'a tuée.
Entendant un bruit sourd, Perrine se retourna. Un plateau venait de s'écraser sur le sol, les tasses et la bouilloire explosant en mille morceaux dans un geyser d'infusion. Plusieurs promis se levèrent d'un bond, main sur leur couteau. Les bras le long du corps, Meigdine regardait le plateau qui gisait à ses pieds.
Meigdine ?
Demanda Fail.
« Tu vas bien ?»
La servante aux cheveux d'or se tourna vers Perrine, l'air bouleversé.
« Seigneur, »
dit-elle,
« veux-tu bien répéter ce que tu viens de dire ?»«
Quoi donc, femme ? Que se passe-t-il ? » ?»«
Tu as dit qu'un rejeté s'était installé en Andorre, »
fit Meigdine d'un ton posé. Elle regarda Perrine avec des yeux glaciaux que n'aurait pas renié une Aes Sedai.
« Tu es sûr de cette histoire ?»
Perrine se réinstalla sur son coussin et se gratta la barbe.
Aussi sûr qu'on peut l'être. Ça remonte à pas mal de temps, mais Rand en était convaincu. Au palais de Kemlin, il a affronté quelqu'un qui maniait le pouvoir de l'unique.
L'homme se nommait Gabriel,
dit Souline.
J'étais là. Des éclairs ont jailli dans un ciel sans nuages. C'était le pouvoir, sans aucun doute, manié par un rejeté.
Certains en Andorre,
ajouta Edara,
prétendent que le Karakarn a évoqué cette histoire.
Il aurait dit que ce Gaebril au palais utilisait des tissages interdits sur des gens de terre mouillée. S'attaquant à leur cerveau, il est forcé à penser ce qu'il désirait et à agir comme il le voulait.
« Megdine, que t'arrive-t-il ? »
demanda Perrine.
« Par la lumière, femme ! Il est mort. Tu n'as plus rien à craindre. »«
Je dois me retirer. »
fit Megdine. Elle sortit du pavillon, laissant derrière elle le plateau et la casse.
« Je m'occuperai d'elle plus tard. »
dit Fail, gêné.
Elle est troublée de découvrir qu'elle a vécu si près d'un rejeté. Elle vient de Kaemlyn, vous comprenez ? »
L'assistance acquiesça, et des serviteurs vinrent nettoyer les dégâts. Avant un moment, Perrine n'aurait rien à boire.
« Pauvre idiot, tu as passé la plus grande partie de ta vie sans personne pour te servir. Si tu ne peux pas obtenir à boire en agitant la main, tu n'en mourras pas. » « Reprenons, »
dit Perrine en se calant sur ses coussins. Quoi qu'il fasse, il n'y était jamais parfaitement à l'aise.
« Mon rapport est terminé, »
annonça Séonide, en s'efforçant d'ignorer la servante qui ramassait des éclats de porcelaine à ses pieds.
« Je m'en tiens à ma décision, »
annonça Perrine.
« Régler le problème des capes blanches est important. Après, nous irons à Kaemlyn, et je parlerai à Elaine. Grady, comment tu t'en sors ?»«
Je suis remis, seigneur, »
répondit la chamane.
« Néald aussi, pratiquement. »
« Tu as toujours l'air fatigué, »
fit remarquer Perrine.
« C'est vrai, mais je vais bien mieux qu'après une journée de labeur dans les champs, avant mon installation à la tournoire.
Il est temps de renvoyer chez eux une partie des réfugiés. Avec les cercles, vous pouvez maintenir un portail ouvert pendant plus longtemps ?»«
N'en suis pas certain. Appartenir à un cercle reste fatigant. Peut-être plus encore que canaliser seul. Mais avec l'aide des femmes, j'ouvrirai un portail assez grand pour que deux chariots passent de front. »
« Parfait, ça. » Nous commencerons par envoyer les gens... lambda. Chaque personne retournée chez elle sera un poids de moins sur mes épaules.
« Et si ces gens ne veulent pas partir ?»
demanda Tam.
« Perrine, beaucoup d'entre eux suivent une formation aux armes. Ils savent ce qui nous attend. Et ils préfèrent l'affronter avec toi que se terrer dans leur maison. »
Lumière. Dans ce camp, n'y avait-il personne qui désire retrouver son foyer ?
Il doit quand même y avoir des candidats au départ.
« Quelques-uns, »
admit Tam.
« N'oublions pas, »
intervint Fail,
« que les vieux et les malades ont été renvoyés chez eux par les aïels. »
Arganda hocha vigoureusement la tête.
« J'ai jeté un coup d'œil sur ces recrues. De plus en plus, les anciens Gaishain émergent de leur stupeur. Une fois éveillés, ce sont des durs à cuire. Autant que pas mal de soldats de ma connaissance. »«
Pour l'instant, »
dit Perrine,
« nous ferons partir ceux qui veulent rentrer chez eux et y rester. » Les autres, je ne peux pas m'en occuper avant d'en avoir terminé avec les capes blanches.
« Excellent !»
s'écria Galen.
« Tu as un plan d'attaque ?»«
Eh bien, s'ils sont assez obligeants pour s'aligner en face de nous, mes archers, mes achamans et mes matriarches les écrabouilleront sans peine. »«
Je souscris à ce plan !»
fit Galen.
« À condition que mes hommes puissent charger pour exterminer les survivants. »«
Malouer !»
dit Perrine.
« Écris aux capes blanches. Dis-leur que nous les affronterons. » À eux de choisir l'endroit. »
En disant ces mots, Perrine éprouva une étrange réticence. Tuer tant d'adversaires potentiels du Ténébreux semblait un tel gaspillage. Mais comment faire autrement ? Balwer acquiesça, de la rage dans son odeur. Que lui avaient donc fait les fils de la Lumière ? Le petit secrétaire était obsédé par eux. La réunion terminée, tout le monde s'en fut. Allant se placer du côté ouvert du pavillon, Perrine regarda les différents groupes s'éloigner. Aliandre et Arganda filant vers leur secteur du camp. Fail marchait à côté de Berylaine. Bizarrement, elle bavardait. Dans leur odeur, la colère dominait, mais leurs propos semblaient amicaux. Que mijotaient-elles ces deux-là ? Sur le sol du pavillon, quelques taches humides témoignaient encore de la bévue de Megdine. Qu'est-ce qui clochait avec elle ? Les comportements de ce genre étaient inquiétants. Bien souvent, ils annonçaient une attaque perverse du Ténébreux.
« Seigneur ?»
demanda une voix familière. Se retournant, Perrine vit que Balwer était toujours là. Les mains dans le dos, très maigre, il faisait penser à un épouvantail fabriqué par des gamins avec des branches et des brindilles.
« Oui ?»«
Quand j'ai rendu visite aux érudits de Kaerien, j'ai... Eh bien, j'ai entendu plusieurs choses d'un grand intérêt. »«
Vous avez trouvé vos fournitures ?»«
Oui, j'ai tout ce qu'il me faut. »
Mais ce que j'ai entendu, je crois que ça vous intéressera.
Dans ce cas, je vous écoute,
fit Perrine en retournant sous le pavillon. Les derniers participants à la réunion venaient de sortir. Balouer parla néanmoins à mi-voix.
Pour commencer, Seigneur, il apparaît que les fils de la lumière ont des accointances avec les Séanchaniens. Désormais, c'est de notoriété commune, et je me demande si la force qui nous barre le chemin n'est pas là pour...
Balouer,
coupa Perrine.
Je sais que vous abominez les fils, mais cette nouvelle, vous me l'avez déjà rapportée une demi-douzaine de fois.
Oui, mais...
Plus un mot sur les capes blanches,
fit Perrine, une main levée.
Sauf si ça concerne spécifiquement les fils qui nous posent un problème. Vous avez du neuf à leur propos ?
Non, Seigneur.
Donc, le sujet est clos. Autre chose ?
Balouer n'en montra rien, mais Perrine sentit du mécontentement dans son odeur. Les fils étaient coupables de bien des crimes, et la haine du secrétaire pouvait se comprendre. Mais il commençait à devenir lassant.
Seigneur, fit Balouer, j'ose avancer que l'histoire du dragon cherchant à signer une trêve avec les Séanchaniens est bien plus qu'une légende. Plusieurs sources confirment qu'il a contacté leur chef pour proposer la paix.
Mais qu'est-il arrivé à sa main ?
Demanda Perrine, tout en chassant de sa tête une nouvelle image de Rand.
Pardon, Seigneur ?
Non, ce n'est rien.
En outre,
fit Balouer en tirant une feuille de parchemin de sa manche.
À Kyrienne, un nombre inquiétant de ces portraits circule entre les coupe-bourses, les voleurs et les bandits locaux.
Il déplia la feuille. Un portrait de Perrine s'y affichait, assez ressemblant pour qu'on s'inquiète. Le jeune homme prit la feuille et fronça les sourcils. Pas un mot sous le dessin. Balouer lui entendit un deuxième, parfaitement identique. Puis il en sortit un troisième, qui représentait Matt cette fois.
Où avez-vous trouvé ça ?
Comme je l'ai dit, Seigneur, ces portraits circulent dans certains... cercles. Si j'ai bien compris, on promet des sommes considérables à quiconque pourrait exhiber votre cadavre. Hélas, je n'ai pas pu savoir qui les verserait.
Vous avez découvert ça dans l'université de Rand ?
Demanda Perrine, sceptique. Le secrétaire resta impassible.
Qui êtes-vous vraiment, Balouer ?
Un secrétaire assez doué pour découvrir des secrets.
Assez doué ? Balouer, je n'ai rien demandé de votre passé. Selon moi, un homme a le droit de tout recommencer de zéro. Mais les fils sont face à nous, et vous avez des liens avec eux. Je dois savoir ce qu'il en est.
Balouer hésita un long moment.
Mon employeur précédent, Seigneur, je le respectais beaucoup. Les fils l'ont tué, et certains d'entre eux pourraient me reconnaître.
Vous espionniez pour ce défunt ?
Balouer fit la moue, et il baissa encore la voix.
Non, j'ai seulement une excellente mémoire des faits, Seigneur.
Excellente, en effet. J'apprécie vos services, Maître Balouer. C'est tout ce que j'essaie de dire. Je suis ravi de vous avoir à mes côtés.
Cette fois, de la satisfaction monta aux narines de Perrine.
Si je peux oser, Seigneur, il est rafraîchissant de travailler pour quelqu'un qui ne tient pas mes informations pour un moyen de trahir ou de compromettre les gens de son entourage.
Les choses étant ce qu'elles sont,
fit Perrine,
je devrais vous augmenter.
Dans l'odeur du petit homme, Perrine reconnut de la panique.
Ce ne sera pas nécessaire.
Vous pourriez demander une fortune à n'importe quel seigneur ou marchand.
Des gens sans importance,
fit Balouer en claquant des doigts.
Sans doute. Mais je continue à penser que vous devriez gagner plus. Du simple bon sens. Quand on engage un apprenti forgeron, si on le paie mal, il se fera bien voir de la clientèle, puis ouvrira sa propre forge dès qu'il sera assez bon pour ça.
Vous ne comprenez pas, seigneur. Pour moi, l'argent n'a aucune valeur. Tout ce qui compte, ce sont les informations, les faits, les découvertes. Voilà les véritables pépites d'or. Cet or, je pourrais le confier à un banquier pour qu'il en fasse de vulgaires pièces. Mais je préfère le remettre à un joaillier afin qu'il crée le plus beau des bijoux. De grâce, Seigneur, laissez-moi rester un simple secrétaire. Le moyen le plus simple de savoir qu'un homme n'est pas ce qu'il prétend être, c'est de vérifier ses revenus. Avec cette astuce, J'ai démasqué plus d'un tueur ou d'un espion, vous pouvez me croire. Pas de gage somptueux, seigneur. Ma récompense, c'est la joie de travailler avec vous. »
Perrine haussa les épaules, puis acquiesça. Alors que Balwer se retirait, il sortit lui aussi du pavillon et glissa les trois feuilles dans sa poche. Ses portraits l'inquiétaient. Il aurait parié qu'il y en avait aussi en Andorre, distribués par les rejetés. Pour la première fois, il se demanda si une armée suffirait à garantir sa sécurité. Une pensée hautement dérangeante. La déferlante de Trollocs submergea le sommet de la colline, anéantissant les derniers vestiges des défenses. Rugissant ou grognant, il labourait la terre noire du Saldaea, brandissant des épées, des lances à crochet, des masses d'armes, des gourdins et d'autres armes vicieuses. De la bave coulait sur les défenses de certains, tandis que les yeux terriblement humains de quelques autres brillaient de haine au-dessus de leurs becs crochus. Tous portaient des armures noires hérissées de piques. Ithurald et ses hommes s'étaient regroupés au pied du versant arrière de la colline. Le camp de repli, lui, avait été démonté à la hâte, et ses occupants se repliaient en direction du sud. Pendant ce temps, les combattants avaient abandonné les défenses. Ithurald détestait avoir renoncé à une position dominante, mais battre en retraite sur un versant de colline très abrupte aurait été suicidaire. Ayant de l'espace pour reculer, il en avait profité, puisque les défenses étaient perdues. À présent, ses forces étaient postées à peu près à l'endroit où se dressait le camp de repli. Casque plat sur la tête, les soldats avaient planté l'embout de leurs longues piques dans le sol, une technique visant à être plus stable alors que les pointes d'acier se braquaient sur les Trollocs. Une position défensive classique. Trois rangées de piquiers et de porteurs de boucliers, toutes les armes levées en direction de la pente. Quand la première rangée aurait tué son lot de Trollocs, elle reculerait après avoir dégagé ses armes et laisserait avancer la deuxième pour faire face au monstre. Ce qu'on appelait « battre en retraite » en termes purement militaires. Un lent processus rangé après rangé. Un peu plus loin derrière, une double rangée d'archers criblait de flèches les créatures des ténèbres, qui basculaient en avant, emportées par leur élan. Souvent en criant de douleur, ces monstres roulaient sur le versant, leur sang répandu en longues traînées rouges. Les survivants continuaient à charger, tentant d'atteindre et d'étriper les piquiers. Juste devant le général, un Trolloc à tête d'aigle s'empala sur une pique. Le bec dentelé, des yeux de prédateur brillants de fureur, ce monstre avait un cou puissant, garni de plumes à la pointe enduite d'une étrange substance noire huileuse. En mourant, la créature émit des sons très peu aviaires, en réalité des imprécations dans le langage guttural des Trollocs.
« Résistez !»
cria Ithurald, son cheval remontant la formation de piquiers.
« On ne cède pas un pouce de terrain !»
Les Trollocs qui dévalaient le versant continuaient à finir embrochés sur les piques, mais ça ne durerait pas. Ils étaient trop nombreux pour qu'une défense pareille, même à trois rangées tournantes, puisse tenir. Derrière les archers, le reste des hommes reculait. Dès que les piquiers auraient faibli, les achamans prendraient le relais pour leur permettre de se replier aussi. Si les hommes en noir en avaient la force, après qu'Ithurald les eût poussés à leurs limites. Et peut-être même au-delà. Parce que leurs limites, justement, ils ne les connaissaient pas aussi bien que celles des soldats. Si les achamans parvenaient à briser l'élan des Trollocs, l'armée du général foncerait vers le sud, bien au-delà de Maradon, puisque la ville lui battait froid.
« Nous ne soutenons pas les envahisseurs !»
Voilà ce qu'on lui avait répondu à chaque tentative de communication. Bande d'abrutis. Cela dit, les Trollocs se masseraient sans doute autour de la cité, avec l'idée de l'assiéger. Ainsi, Ithurald et ses hommes auraient le répit suffisant pour atteindre une meilleure position défensive.
« Résistez !»
cria de nouveau le général, en passant devant un secteur où la pression des monstres menaçait d'avoir des résultats. En haut de la colline, une meute de Trollocs à tête de loup s'était immobilisée. Méfiant, les monstres regardaient leurs camarades chargés comme des taureaux furieux. Une volée de flèches dispersa les Trollocs à tête de loup. Des gueules, comme les fidèles du dragon intégrés dans la troupe d'Ithurald les appelaient. Les Trollocs avaient une hiérarchie et s'organisaient par bandes. Mais les soldats les identifiaient souvent à partir de leur physique, cornes pour les béliers, bec pour les oiseaux et griffes pour les ours. Les gueules comptaient parmi les monstres les plus intelligents. Certains vétérans affirmaient les avoir entendus parler un langage humain pour négocier avec leurs adversaires ou les attirer dans un piège. Pendant cette campagne, Ithurald était devenu un expert en Trolloc. Pour bien se battre, il fallait connaître ses ennemis. Hélas, en matière d'intelligence et de comportement, les monstres faisaient montre d'une désolante diversité. En outre, bon nombre d'entre eux combinaient les caractéristiques physiques de plusieurs groupes. Par exemple, Ithurald avait vu une créature couverte de plumes qui arborait les cornes d'un bélier. Au sommet de la colline, les gueules tentaient d'échapper aux flèches. Mais les monstres de derrière les poussaient en avant, sans se soucier du danger. Sauf quand ils crevaient de faim, les Trolloc étaient plutôt lâches. Correctement excités par les Myrdraal, ils devenaient de très bons guerriers. Les Blathar formeraient la seconde vague d'assaut. Une fois que les Trolloc auraient affaibli les défenses, et si possible, quand les archers seraient à court de projectiles. Ithurald n'était pas pressé d'en arriver là.
« Lumière, j'espère que nous parviendrons à les distancer. »
Nettement à l'écart, les Achaman attendaient les ordres du général. Ithurald aurait aimé qu'il soit posté plus près des soldats, mais il ne pouvait pas prendre ce risque. Ses hommes étaient trop précieux pour tomber sous des flèches perdues. Avec un peu de chance, les piquets infligeraient de lourdes pertes aux monstres. À force, leurs charognes s'accumuleraient, devenant un obstacle pour ceux qui les suivaient. Alors, les cavaliers du général se chargeraient des Trolloc épargnés par la fureur des Achaman. Dans la confusion, les piquets devraient pouvoir se replier. Au-delà de Maradon, des portails donneraient accès à la position choisie par Ithurald, une passe de montagne boisée, à quelques 10 lieues au sud. Les soldats devraient pouvoir s'en sortir. Devraient. Le général détestait commander un repli précipité comme celui-là.
« Reste ferme !»
pensa-t-il, en continuant à beugler des ordres. Ces hommes devaient entendre la voix de leur chef.
« Ce garçon est le dragon réincarné. Il tiendra parole. »«
Seigneur !»
lança une voix. Les gardes d'Ithurald s'écartèrent pour laisser passer un jeune gars à bout de souffle.
« Seigneur, c'est le lieutenant Lydrin. »«
Il est mort ?»«
Non, seigneur, il est... »
Le genou regarda les rangées de piquets dans son dos. Au lieu de reculer comme on aurait dû s'y attendre, les piquets avançaient sur les assaillants.
« Que se passe-t-il ? »
lança Ithurald avant de talonner Honte de l'Aube. Le Hongre Blanc partit au galop. Les gardes du général et le jeune messager suivirent le mouvement dans un tonnerre de bruit de sabots. Malgré le vacarme de la bataille, Ithurald entendit les exhortations de Lydrin. Placé devant les piquets, le Domani chargeait les Trolloc, épée au poing et bouclier fixé à l'avant-bras. Ses hommes le suivaient, prêts à le défendre, et les pauvres piquets ne savaient plus où ils en étaient.
« Lydrin, espèce d'idiot !»
s'écria Ithurald en tirant sur ses rênes.
« Approchez !»
beugla le lieutenant en levant sa lame. Le visage maculé de rouge, il éclata de rire.
« Venez ! Je vous attends ! Mon épée a soif de sang !»« Lydrin !»
l'appela Ithurald.
« Lydrin !»
L'officier regarda par-dessus son épaule. Dans ses yeux écarquillés brillait une forme d'euphorie. Ce délire, le général l'avait déjà vu chez des hommes qui s'étaient battus trop longtemps et trop violemment.
« Nous allons tous crever, général !»
lança Lydrin.
« Comme ça, j'en emmènerai ! Un ou deux au moins ! Joins-toi à nous !»«
Lydrin, reviens et nous !»
Lydrin tourna la tête devant lui et recommença à charger.
« Essayez de rappeler ces hommes !»
ordonna le général.
« Et refermez les brèches dans les rangs de piquet. Vite ! On ne peut pas !»
Les Trolloc relancèrent leur charge. Avec un rire de dément, Lydrin périt dans un geyser de sang. Pas assez nombreux, ces hommes durent s'écarter devant les monstres. Alors que les piquets resserraient les rangs, des Trolloc les percutèrent. Certains tombèrent, mais pas tous, loin de là. Les monstres les plus proches braillèrent quand ils virent un trou dans les rangs. Piétinant les dépouilles de leurs frères d'armes, ils se jetèrent à leur tour sur les piquets. Avec un juron, le général fit avancer Honte de l'Aube. À la guerre comme dans une ferme, il fallait parfois ne pas hésiter à patauger dans la gadoue. Quand il arriva au contact avec les monstres, Ithurald cria à s'en casser les cordes vocales. Ses hommes l'entourèrent, refermant la brèche. Alors, l'enfer se déchaîna. Onde de l'aube renacla et piaffa, tandis que son maître faisait des ravages avec sa lame. Détestant être si près des créatures des ténèbres, le destrier, très bien dressé, était un cadeau d'un des hommes de Bachéré. D'après ce brave, un général en poste dans les terres frontalières devait monter un animal habitué à combattre les trolloques. Ce bienfaiteur, Itourald le bénissait. Le combat dégénérait. Le premier rang de piquiers faiblissait, et les deux autres ne tarderaient pas à l'imiter. Itourald entendit Ankaer crier qu'il prenait le commandement et qu'il fallait maintenir la formation. L'officier semblait paniqué. Un très mauvais signe. Le général exécuta un héron sur la souche, une figure d'escrime adaptée à la cavalerie, égorgeant proprement un trolloque. Un geyser de sang brunâtre jaillit du cou du monstre, qui s'effondra sur un congénère à tête de sanglier. Au sommet de la colline, un étendard flottait désormais au vent. Représentant un crâne de bélier, c'était le drapeau des gobelins. Itourald poussa son cheval sur la droite, hors de la trajectoire d'un tranchant de hache vicieux. Puis il fit avancer sa monture et traversa le flanc du trolloque avec sa lame. Autour de lui, Wellborn et Leinen, deux de ses meilleurs hommes, avaient péri en défendant son flanc. Que la lumière carbonise les trolloques. La ligne défensive se débandait. Le général et ses gardes étaient trop peu nombreux, et ses autres hommes se repliaient déjà.
Non! Non!
Très inquiet, Itourald tenta de s'extraire de la mêlée pour reprendre le commandement. Mais s'il reculait, les trolloques feraient une percée. Eh bien, il allait prendre le risque. Après tout, son métier consistait à gérer les problèmes de ce genre. Mais une trompette sonna la retraite. Horrifié, Itourald écouta les notes maudites se répercuter sur tout le champ de bataille. Les sonneurs de cor allaient s'y mettre aussi à présent. Mais il n'était pas censé intervenir avant qu'il en donne l'ordre ou qu'un membre de sa garde le fasse. C'était trop tôt, beaucoup trop tôt. D'autres trompettes reprirent la sonnerie, mais pas tous. Sans doute parce qu'ils voyaient que c'était prématuré. Hélas, leur réaction aggrava les choses. Une moitié des piquiers se retirèrent, les autres tenant la position. Autour du général, la ligne défensive explosait sous les coups de boutoir des trolloques. Un désastre, le pire qu'ait connu Itourald. Il sentit ses doigts s'engourdir.
Si j'échoue, les ténèbres dévasteront la rade d'Oman.
Itourald rugit et lança Onde de l'aube sur les trolloques. Ses compagnons survivants le suivirent.
Elmke et Koutaris,
lança le général à deux de ses gardes.
Rejoignez la cavalerie de Durem et dites à ces hommes d'attaquer le centre des hordes ennemies dès qu'une ouverture se présentera. Qu'après, fit donner le même ordre à l'escadron d'Aline, qu'il fonde sur le flanc est des trolloques. Sorrentin, va chercher les achamans. Je veux qu'ils réduisent en cendres ces monstres.
Tandis que les messagers s'éloignaient, Itourald fonça vers l'ouest, où la ligne de défense tenait encore. Rejoignant une des deux rangées arrière, il la déplaça pour qu'elle comble une brèche. La manœuvre faillit réussir. N'était que les blafards attaquèrent à cet instant précis, soutenus par une nuée de drakkars. Itourald en fut réduit à combattre pour sauver sa peau. Partout, le champ de bataille ne ressemblait plus à rien. Dans la débandade, les trolloques cherchaient une proie à achever, et les blafards s'efforçaient, à coups de fouet, de les rediriger vers les derniers carrés de piquiers. Du feu déchira l'air quand les achamans s'en prirent enfin aux trolloques. Mais leur tissage était beaucoup plus faible qu'avant leur affection. Sous un ciel trop chargé de nuages, des armes s'entrechoquèrent, des hommes crièrent et des bêtes rugirent. À bout de souffle, Itourald sentit que la fin approchait. Tous ses compagnons avaient péri. En tout cas, il avait vu tomber Staven et Rhett. Qu'était-il advenu des autres? Il ne les voyait nulle part. Tant de morts. Pourquoi cette sueur dans ses yeux? Se demanda le général.
Au moins, on leur aura compliqué la tâche. Résister si longtemps, je n'aurais pas cru ça possible.
Une colonne de fumée montait du nord. Donc, une manœuvre avait bien tourné. Cet achaman, Taimoth, avait rempli sa mission. La deuxième batterie d'engins de siège était en feu. Plusieurs officiers avaient jugé dément d'éloigner un des achamans. Mais un homme en noir de plus ou de moins n'aurait rien changé au désastre. En revanche, quand les Trollocs attaqueraient Maradon, l'absence des catapultes modifierait la donne. Une lance ennemie transperça le flanc d'onde de l'aube, qui trébucha. Ithurald n'en étant pas à sa première monture morte sous lui, il savait rouler sur le côté au bon moment. Mais ce coup-ci, il n'était pas assez bien équilibré, et il entendit sa jambe se briser lors de l'impact. Les dents serrées, pas question de mourir allongé sur le dos, il réussit à s'asseoir. Puis il lâcha son épée, lame gravée du héron ou pas, et récupéra une pique à la hampe brisée, qui l'enfonça dans le torse d'un Trolloc. Un flot de sang noir aspergea le moignon de hampe et les mains d'Ithurald. Un roulement de tonnerre déchira l'air. Avec ces nuages, ce n'était pas rare, et presque toujours sans rapport avec les éclairs qui en jaillissaient. Ithurald déplaça sa pique pour écarter le cadavre du Trolloc. À cet instant, un Myrdraal l'aperçut. Le général reprit son épée, mais il ne se fit pas d'illusions. Ce blafard serait son bourreau. À lui seul, un de ces monstres pouvait tuer 10 hommes. Alors en affronter un avec une jambe cassée. Ithurald tenta quand même de se relever. Il n'y parvint pas et retomba en arrière en jurant. Alors que le blafard chargeait, il leva sa lame, prêt à mourir dignement. Une 10aine de flèches se plantèrent dans le torse du blafard. Incrédule, Ithurald le regarda tituber. Le tonnerre se faisait de plus en plus fort. Ithurald se releva et découvrit, stupéfié, que des milliers de cavaliers chargeaient les Trollocs et les massacraient.
Le dragon réincarné, il est venu.
Non. Ces hommes luttaient sous l'étendard du Saldaea. Le général regarda derrière lui. Les portes de Maradon étaient ouvertes, et les survivants épuisés de son armée les franchissaient en claudiquant. Depuis les créneaux, des lances de flammes s'abattaient sur les Trollocs. Les Achamans avaient pu accéder à une position dominante. Une 20aine de cavaliers déboulèrent et piétinèrent le Myrdraal blessé. Le dernier du groupe sauta de selle et débita en rondelles l'ignoble créature sans yeux. Sur tout le champ de bataille, les Trollocs s'écroulaient, criblés de flèches ou transpercés par une lance. Mais ce ne serait qu'un feu de paille. Finissant de détruire les palissades et les autres défenses d'Ithurald, des hordes de Trollocs dévalaient le versant de la colline. Cela dit, le répit offert par les cavaliers du Saldaea serait suffisant, avec les portes ouvertes et le tir de barrage des Achamans, pour que les soldats du général se réfugient en ville. Ithurald se réjouit de voir Barétal et Connell, les deux survivants de sa garde personnelle, approchés de lui à pied. Leurs montures mortes, couvertes de sang, ils restaient loyaux à leur chef. Ithurald rengaina sa lame et tira la lance du flanc de son cheval. S'en servant comme d'une béquille, il réussit à se lever. Un cavalier du Saldaea approchait de lui. Un type au visage étroit, au nez crochu et aux sourcils noirs en broussailles. Arborant une courte barbe tressée, il leva son épée rouge de sang à l'intention du général.
« Tu es vivant ?»«
On dirait bien, oui. »
répondit Ithurald alors que ses gardes le rejoignaient.
« Tu commandes cette cavalerie ?»«
Pour l'heure, oui. Je me nomme Yoeli. Tu pourras chevaucher ?»
J'aime mieux ça que rester ici. »
Yoeli tendit une main puis hissa le général en croupe. La jambe blessée d'Ithurald lui fit un mal de chien, mais il n'était pas en position d'attendre une civière. Deux autres cavaliers se chargèrent des compagnons du général. Enfin, les trois cavaliers foncèrent vers Maradon.
« Sois béni, »
dit Ithurald à son sauveur.
« Mais venir vous a pris du temps. »«
Je sais, »
lâcha Yoeli, sinistre.
J'espère que tu en vaux la peine, envahisseur, parce que ce que j'ai fait aujourd'hui me coûtera sans doute la vie.
Pardon ?
L'homme ne répondit pas. En silence, il conduisit Ithurald en sécurité. En sécurité ? Enfin, dans une cité qui serait bientôt assiégée par des centaines de milliers de créatures des ténèbres. Morgaz sortit du camp. Personne ne l'en empêcha. Même si quelques sentinelles la regardèrent bizarrement. Très vite, elle entra dans la forêt, au nord. Ici, les chênes géants étaient assez espacés pour que leurs branches se déploient largement. Inspirant à fond, Morgaz se faufila entre les plus basses. Gaebril était un des rejetés. La reine déchue trouva enfin un endroit où un ruisseau venu des hautes terres alimentait une crevasse entre deux rochers pour former un petit bassin limpide. Autour, de grands rochers évoquaient un antique trône brisé, conçu pour un géant de 15 pieds de haut. Les arbres portaient encore tous des feuilles, même si elles semblaient malades. Dans le ciel noir, une brèche entre les nuages laissait filtrer de chiches rayons de soleil qui se reflétaient sur l'onde. Des verrons tournaient autour des petites flaques de lumière, comme s'ils cherchaient à comprendre d'où elles venaient. Morgaz contourna le bassin, puis elle s'assit sur un rocher plat. Dans le lointain, elle entendait encore les bruits familiers du camp. Des cris, des poteaux qu'on enfonçait dans le sol, des roues de chariot qui grinçaient. La reine déchue sonda le bassin. Qu'y avait-il de plus détestable qu'être le jouet de quelqu'un? De devoir danser quand on tirait les ficelles, comme un pantin. Dans sa jeunesse, elle s'était habituée à se plier aux caprices des autres, le seul moyen de stabiliser son règne. Taringale avait essayé de la manipuler. À dire vrai, il avait réussi la plupart du temps, et il n'avait pas été le seul. Tant de gens l'avaient poussé dans un sens ou dans un autre. 10 ans durant, elle avait cherché à déterminer quelle faction était la plus forte. 10 ans à tisser patiemment des alliances. Puis elle avait acquis une véritable autonomie, manœuvrant selon sa seule volonté. Quand Taringale était mort lors d'une chasse, bien des gens avaient murmuré que son décès la libérait. Ses proches, eux, n'avaient pas été dupes. Depuis longtemps, elle s'était dégagée de son autorité, comme on se dégage d'un piège. Elle se souvenait parfaitement du jour où elle avait banni les derniers nobles sans s'étirer ses ficelles dans l'ombre. Dans son cœur, ce jour-là, elle était vraiment devenue la reine d'Andorre. En secret, elle s'était jurée que plus personne ne l'influencerait. Des années plus tard, Gaebril avait déboulé dans sa vie, puis Valda, qui était encore pire. Au moins, avec Gaebril, elle ne comprenait pas ce qui se passait, de quoi endormir ses blessures. Un bruit de pas sur les feuilles mortes annonça l'arrivée d'un visiteur. Les nuages se refermant, la lumière se tarit et les verrons s'éparpillèrent. Le visiteur s'arrêta près du rocher de la reine.
« Je m'en vais, » dit Talanvor. Aibara a donné la permission à ses achamans d'ouvrir des portails, en commençant par certaines cités lointaines. Je pars pour Théar. Selon certaines rumeurs, il y aurait un roi là-bas. Il lève une armée pour participer à l'ultime bataille, et je veux en être.
Morgaz leva les yeux et contempla les arbres. Une forêt? Non, il s'agissait plutôt d'un bosquet.
Les gens disent que tu étais aussi obsédé que Yeux Jaune. Tu ne te reposais jamais, prenant à peine le temps de manger, parce que tu voulais à tout prix trouver un moyen de me libérer.
Talanvor resta muet.
Aucun homme n'a jamais fait ça pour moi. Pour Taringale, je n'étais qu'un pion. Pour Tom, une beauté à conquérir. Et pour Garrett, une reine à servir. Aucun n'a centré sa vie et son cœur sur moi. Tom et Garrett m'aimaient, je crois, mais comme une chose précieuse qu'ils devaient protéger, avant de la perdre un jour. Toi, je n'aurais jamais cru que tu m'abandonnerais. Et je ne le ferai pas. Pourtant, tu t'en vas à Théar. Mon cœur restera ici.
Morgaz, je sais ce que c'est d'aimer à distance. Avant ce voyage, je l'ai fait pendant des années, et je continuerai. Mon cœur est un traître, mais vis-à-vis de moi. Qui sait, un Trolloc me fera peut-être la faveur de me l'arracher. Quelle amertume! Tu m'as clairement signifié que mes attentions étaient déplacées. Une reine et un simple membre de la garde, de la folie. Une ancienne reine. Dans ta tête, Morgaz. Pas en réalité.
Une feuille dentelée se détacha d'un arbre et tomba dans le bassin. Encore verte, elle aurait dû avoir une longue vie devant elle.
« Sais-tu ce qui aura été le pire dans tout ça ?»
demanda Talanvor.
« L'espoir. Cet espoir que je me suis absurdement autorisé. En voyageant avec toi et en te protégeant, je pensais que tu finirais par ouvrir les yeux, que tu comprendrais et que tu te soucierais de moi, que tu oublierais ce type.
Quel type ?»«
Gaebril !»
cria Talanvor.
« Je vois bien que tu penses encore à lui, même après ce qu'il t'a fait. Je laisserai mon cœur ici, mais toi, tu as oublié le tien à Kemlin. »
Du coin de l'œil, Morgaz vit que Talanvor se détournait.
« Quoi que tu aies vu en lui, tu ne le trouves pas en moi. Ce que je suis ? Un garde de la reine idiot qui ne sait pas dire les mots qu'il faut. Tu te pâmais devant Gaebril et il t'ignorait. C'est ainsi que fonctionne l'amour. Par le sang et les cendres, j'ai fait exactement la même chose avec toi.
Morgaz ne desserra pas les lèvres.
Voilà pourquoi je dois partir. Tu ne risques plus rien, et c'est tout ce qui compte. Que la lumière me pardonne, mais c'est toujours ce qui importe le plus pour moi.
Talamvor s'éloigna, ses semelles faisant crisser les feuilles.
Gaebril était un des rejetés,
dit Morgaz. Les crissements cessèrent.
En réalité, c'était Ravine. Il a pris le contrôle d'Andorre en utilisant le pouvoir de l'unique. Les gens étaient obligés de lui obéir.
Talanvor revint sur ses pas, comme l'attestaient les crissements, plus forts et plus proches.
Tu en es sûr? Sûr? Non. Mais ça expliquerait bien des choses. Talanvor, nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe dans le monde. Le temps détestable, la nourriture qui pourrit, les faits et gestes de Randaltor. Il n'est pas un faux dragon. Les rejetés arpentent de nouveau le monde. Que ferais-tu si tu étais l'un d'eux? Lever une armée et conquérir des pays? Ou t'introduire dans un palais et prendre la reine pour consort, en manipulant son esprit pour qu'elle t'obéisse? Le moyen de disposer d'une nation, pratiquement sans effort. Même pas besoin de lever le petit doigt.
Morgaz leva la tête et la tourna vers le nord.
Cette technique s'appelle la coercition. Un tissage sombre et répugnant, qui prive sa cible de toute volonté. Je ne suis pas censé savoir qu'il existe. Tu m'accuses de penser à Gaebril? Eh bien, tu as raison. Je l'évoque et je brûle de haine pour lui. Pourtant, dans mon cœur, je sais que s'il venait ici et me demandait quelque chose, je lui céderais, incapable de m'en empêcher. Mais ce que j'éprouve pour lui, cette chose qui lie mon désir et ma haine comme deux mèches dans une tresse, n'est pas de l'amour.
Morgaz se tourna et regarda enfin Talanvor.
Je sais ce qu'est l'amour, et Gaebril n'a jamais eu le mien. D'ailleurs, je doute qu'une créature telle que lui sache de quoi il s'agit.
Talanvor chercha le regard de Morgaz. Dans le sien, gris sombre, brillait de la douceur et de la pureté.
Femme, tu viens de ranimer mon espoir. Prends garde à l'homme qui se prosterne à tes pieds. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Peux-tu différer ton voyage? Attendre un peu avant de partir?
Talanvor s'inclina.
Morgaz, si tu veux quelque chose de moi, quoi que ce soit, il suffit de le demander. Sur ce point, n'ai-je pas toujours été clair? Je ferai retirer mon nom de la liste de départ.
L'officier se retira. Morgaz le regarda s'éloigner, une tempête se déchaînant dans son esprit, malgré l'influence apaisante du bassin et des arbres.